Radio Okapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous parlerons santé. Le choléra et la Mpox continuent de sévir à Basoko dans la Tchopo. On compte déjà plus de 90 cas pour les deux rien que cette année. Les responsables sanitaires lancent un appel pour un appui en médicaments. En Ituri, il y a eu remise hier de 18 écoles et centres de santé aux entités affectées par des conflits à Irumu et Djougou. Il s'agit des ouvrages réalisés dans le cadre du projet Star Est financé par la Banque mondiale. Avec notre invité Mwindo Tafuteni, président de la société civile de Lubero, nous parlerons de la situation difficile des habitants du sud de ce territoire, prise en étau entre les attaques des ADF, la présence de la RC-123 et l'activisme de groupes armés Wazalendo. Ce journal parle de la province de La Tchopo. La situation sanitaire est préoccupante à Basoko, territoire situé à 285 km de Kisangani en aval du fleuve Congo. Le choléra et la Mpox continuent à sévir dans cette entité. Plus de 90 malades, dont environ 70 de choléra et une vingtaine de Mpox ont été notifiés depuis le début de cette année. Les responsables sanitaires sollicitent un appui en médicaments auprès du gouvernement et de ses partenaires afin d'assurer efficacement la prise en charge des malades. Ces informations collectées par Jacques Moukonkole sont rendues ici par Benjamin Moudoumbi.
Trois aires de santé sur les 21 que compte la zone de santé des Basoko sont les plus affectées, rapportent des sources médicales sur place. Il s'agit de Lisalama, de Yokana et Yowanga. Le même source précise que 4 patients souffrant de choléra sur 68 enregistrés ont perdu la vie. Pendant ce temps, 3 autres sont décédés parmi la vingtaine des cas de Mpox rapportés. Au regard de la fréquence des cas de ces deux pathologies, le personnel soignant s'est dit inquiet, car, souligne-t-il, le médicament font défaut. Il ne reste pour le moment que quelques sérums d'alerte qui pourraient s'épuiser d'ici à la fin de cette semaine. Afin de faire face à cette situation dramatique, les responsables sanitaires lancent un cri de détresse au gouvernement, à ses partenaires et autres ONGS humanitaires afin de leur apporter un appui en médicaments. Par ailleurs, ils recommandent aux autorités sanitaires provinciales le renforcement des capacités opérationnelles du personnel soignant. À la population, ils l'exhortent au respect des mesures barrières en vue de se protéger contre ces maladies.
Et à Kananga, dans le Kasaï central, il y a eu lancement mercredi des activités de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP. C'est pour la prise en charge médicale des enseignants du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans cette province. Ce lancement intervient après son installation dans cette province en octobre dernier. Et c'est le vice-gouverneur Job Boku Indama qui a procédé au lancement. DDT avec André Katindinga Lamouloumé.
La cérémonie de lancement a eu lieu à la polyclinique Saint-Georges en présence de plusieurs autorités politiques et éducatives. D'après Joseph Bopé, coordonnateur provincial de la MSP au Kasaï central, cette activité s'inscrit dans le cadre des objectifs de leur structure qui vise à garantir une bonne prise en charge sanitaire aux professionnels de la craie.
Le lancement de cette prise en charge médicale n'est pas une fin en soi. Il marque plutôt le début d'un processus progressif et maîtriser. Notre objectif est clair, mettre la santé de l'enseignant au cœur de tout.
Les enseignants ont salué les débuts de cette prise en charge et attendent un bon service. Jonas Kabinda, l'un d'eux, émet le vœu de voir la MSP offrir des soins de qualité.
Ce que nous pouvons demander, c'est accueillir avec humanisme les enseignants qui pourront être malades. Ce que nous ne souhaitons pas voir dans l'exercice de cette mutuelle, c'est simplement du dérapage.
La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP vise à assurer les soins de santé des enseignants matriculés et rémunérés, ainsi que des 4 membres de leur famille par enseignant. Cette prise en charge s'effectue dans des structures sanitaires qu'elle a déjà identifiées. Kananga, André Katendinga Lamouloumé, Radio Okapi.
Nous sommes en Ituri à présent. Le gouverneur de province a procédé hier jeudi à la remise de 18 infrastructures destinées à abriter des écoles et des centres de santé dans différentes entités affectées par les conflits. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du projet de stabilisation et de reconstruction de l'Est de la RDC, Star Est, financé par la Banque mondiale. L'objectif est d'appuyer le gouvernement provincial dans la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de la bonne gouvernance. Qu'en est-il, Isaac Raymond?
Il s'agit de la première phase du projet Star Est. Elle a permis la construction de 4 bâtiments pour des centres de santé et de 18 écoles primaires et secondaires. Ces infrastructures sont situées notamment à Rwampara et Songolo dans les territoires d'Irumu, ainsi qu'à Kwandroma, Libye et Sanduku dans les territoires de Djougou. Des zones qui ont été fortement touchées par les violences des groupes armés, avec notamment l'incendie des maisons et d'infrastructures socio-économiques de base. Selon les chefs de secteur de Walindu-Piti, ces ouvrages vont contribuer à renforcer la cohésion entre les communautés et à stabiliser la zone, Dieudonné Kbari.
Quand on construit des édifices, ça renforce davantage la cohésion sociale intercommunautaire parce que les écoles sont fréquentées par plusieurs enfants qui viennent de différentes ethnies.
Pour les gouverneurs des provinces, cette initiative, réalisée avec l'implication des populations bénéficiaires et des autorités locales, traduit leur engagement en faveur de la paix et du développement de l'Ituri. Le général Johnny Luboya Kacham.
Les Ituriens aujourd'hui, ils ont prouvé aux yeux de tous les Congolais qui sont pour la paix. Parce qu'ils ont compris qu'il vaut mieux se tourner vers le développement que d'aller vers la violence.
L'autorité provinciale a également inauguré à Bounia les bureaux administratifs du projet Star Est, dont les travaux ont coûté environ 600 000 $ américains. Bounia, Isaac Moyope, Radio Kapi.
Autre travaux d'infrastructure, ils concernent la ville de Kinshasa. L'inspection générale de finances, IGF, exprime sa satisfaction de l'évolution des travaux de voirie qu'exécute l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, dans la capitale. Des inspecteurs de cet établissement public ont clôturé mercredi une mission de contrôle de 2 jours à travers les chantiers exécutés dans le cadre du programme d'urgence de réhabilitation et d'assainissement dans la capitale. Blaise Ndongala Mayanda nous en dit plus.
La première étape de leur tournée d'inspection a concerné les chantiers de réhabilitation de l'avenue Tourisme, axe stratégique de la capitale, entièrement bétonné sous les linéaires concernés. À l'issue de la visite, l'équipe de l'IGF dit avoir constaté quelques réserves techniques formulées sur les volets chaussées, notamment concernant les points de jonction entre les sections nouvellement bétonnées et l'ancienne chaussée, afin de garantir une meilleure durabilité de l'ouvrage et un confort optimal pour les usagers. La mission s'est ensuite poursuivie à l'Institut National du bâtiment et des travaux publics où cette institution académique exécute en régie les travaux de bétonnage de l'avenue Jacquier. Ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois expérimentale et pédagogique combinant formation pratique des étudiants et réalisation des infrastructures urbaines. La délégation a été reçue par le directeur général de l'INBTP, professeur ingénieur Cédric Chibangou, qui a présenté l'économie du projet qui consiste au bétonnage d'un linéaire de 200 mètres. Selon les constats des inspecteurs de l'IGF, les principaux défis demeurent liés aux difficultés de libération des emprises impactant le rythme normal d'exécution des travaux à travers la capitale.
Et au Sud-Kivu, la principale voie d'approvisionnement de la ville de Shabunda à partir de Kindu-Maniema est complètement détériorée sur l'axe Matili-Mungembe, plus précisément à Kalipa. Tous les produits de première nécessité deviennent rares sur le marché avec comme conséquence la hausse de leurs prix. Le ministre provincial de la Justice en récente mission d'itinérance s'est rendu compte de la gravité de cette situation. Faustin Mayani rassure que le gouvernement provincial du Sud-Kivu va rapidement rendre ce tronçon de 12 km praticable de nouveau. Ses propos ont été recueilli par Jean Kassami.
Il y avait des difficultés d'approvisionnement de la ville de Shabunda à partir de Beni où 1 kg de fret coûte $3, alors que Shabunda est proche de la ville de Kindu où il y a une route qui est bloquée seulement à partir d'un point. Et là, il n'y a que 12 km. Si ces 12 km sont arrangés, les biens et services, les produits de première nécessité peuvent venir de Kindu et approvisionner la ville de Shabunda. Pour ce qui concerne les approvisionnements en provenance de Beni, la population déplore que ces approvisionnements sont essentiellement constitués par la boisson. Et ça, ça n'aide pas beaucoup la population qui attendait recevoir des produits de première nécessité, notamment les sels de cuisine, les savons et d'autres denrées de première nécessité. Et voilà, avec ça, l'implication de l'autorité serait importante pour décourager l'importation des boissons fortement alcoolisées.
Ici à Kinshasa, les habitants du quartier Sokopao dans la commune de Limété passent la nuit à la Belle Étoile. Leurs maisons ont été démolies par l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette opération de démolition qui a commencé lundi dernier visait, selon le gouverneur Daniel Bumba, le site Pakajuma. Il s'agissait donc de libérer les emprises de l'Office national de transport, ONATRA, pour faciliter la mobilité du train urbain. Cependant, au lieu des emprises, tout le quartier Bassoko Pao qui est rasé. Selon les victimes, en 2023, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait condamné l'hôtel de ville pour destruction méchante et abus de pouvoir à la suite des démolitions de 2022. La cour avait alors condamné la ville à verser une somme de 300 000 dollars américains aux victimes. Elles affirment aussi de tenir d'autres décisions judiciaires en leur faveur, dont l'arrêt du Conseil d'État. On écoute à ce sujet Amos Angeleka Mulopwe, porte-parole du comité des victimes de Soko Pao, dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
Nous sommes couverts par l'arrêt du Conseil d'État. Ce numéro RA 094-1622, RA 107-1623. C'est l'arrêt qui a condamné l'État, c'est-à-dire de l'an 2020. En 2021, il y a eu un arrêté de Lumea qui est venu abroger l'arrêté que le ministre des Affaires foncières Kabangenoumbi. C'est l'arrêté que nous avons attaqué au niveau du Conseil d'État. Et on a eu gain de cause et l'État a été condamné en notre faveur. En 2022, malgré tout ça, le gouverneur Ngobila à l'époque et Jekoko Mulumba, ils sont venus démolir encore. C'est de là que nous avons aussi attaqué l'arrêté de démolition du gouverneur en 2022. Nous avons gagné le gouverneur. Le site est bien délimité. Lorsqu'il y a un arrêté de désaffectation. On a désaffecté l'arrêté. Le site n'est plus dans les domaines privés de l'État, mais le site est dans les domaines publics de l'État. L'ONATRA a été délimité. Pakadjouma, c'est de l'autre côté. Mais malheureusement, il dit, le gouvernement parle de Pakadjouma, mais il est en train de démolir tout ce Sokopao. C'est ce que nous n'avons pas compris.
Parlant de ce constat à présent, malgré une croissance économique soutenue, la pauvreté reste une réalité quotidienne pour une large majorité de Congolais. C'est ce qui ressort du rapport de l'enquête sur les conditions de vie des ménages publié hier jeudi à Kinshasa par l'Institut national de la statistique avec l'appui de la Banque mondiale. Il reste un portrait du niveau de vie en République démocratique du Congo. Ce document, le premier du genre, devient depuis plus de 10 ans, pose une question centrale. Comment transformer la croissance économique en mieux-être réel pour la population? Jocelyne Moussaopondé revient un peu plus en détail sur le contenu de ce rapport.
En 2024, la République démocratique du Congo a affiché une croissance économique de 6,7%, portée surtout par le cuivre et le cobalt. Mais cette performance ne profite pas à tous. Selon l'enquête sur les conditions de vie de ménage, près de 68% des Congolais vivent encore sous le seuil de pauvreté. Concrètement, cela signifie que plus de 64 millions de personnes disposent de moins de 5 700 francs congolais par jour pour se nourrir, se soigner, se loger et se déplacer. La pauvreté touche davantage le monde rural où vivent 7 pauvres sur 10 et frappe particulièrement les provinces du Kasaï, du Kwilu ou encore du Tanganyika. Même travailler ne protège pas toujours. Beaucoup de Congolais sont des travailleurs pauvres, surtout dans l'agriculture et le secteur informel. Pour l'Institut national de la statistique, ce rapport offre désormais une base solide pour mieux cibler les politiques publiques, investir dans l'agriculture, l'éducation et la protection sociale afin que la croissance économique se traduise enfin par une amélioration réelle des conditions de vie des ménages.
Au nord et au sud Kivu, une centaine d'agents de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, aux antennes de Goma et Bukavu, totalisent 12 mois sans toucher leur salaire. Selon les syndicats libres chrétiens basés à Bukavu, cette situation rend les travailleurs extrêmement vulnérables, surtout dans un contexte marqué par l'occupation des zones par les rebelles AFC 123 et la fermeture des banques commerciales. Le responsable provincial de cette structure syndicale appelle les autorités nationales à intervenir de toute urgence. Suivant Maître Antoine Ombenimou.
C'est depuis février 2025 que les agents de ces deux entités n'ont pas accédé à leur salaire, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. C'est comme ça que nous demandons au directeur général de payer les salaires des agents. D'ailleurs, il y a une réunion qui était organisée au mois de novembre année passée 2025. Lui-même avait dit que ces salaires existent. Il dépose ça quelque part et que sitôt avoir l'autorisation de sa hiérarchie, il pourra payer ça. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas payé alors que le ministre a donné l'autorisation au mois de janvier que le salaire de ces gens doivent être payés. Donc, nous demandons et au président de la République, au premier ministre et même au ministre du portefeuille de s'impliquer dans ce dossier pour que les salaires de ces gens puisse être payé. Nous sommes conscients qu'actuellement, dans ces différentes zones, les banques ne fonctionnent pas. Mais à travers Mobile Money, cette question peut trouver une solution et ainsi assister ces travailleurs qui actuellement ne savent pas subvenir à leurs besoins.
Le syndicat précise que ce même problème touche également les agents de la régie de voies aériennes de Goma et Bukavu et il exige ainsi une intervention urgente de la direction générale de la RVA.
Actualité internationale.
Une ONG porte secours aux bateaux de migrants disparus en mer. Elle effectue des missions de surveillance aérienne pour localiser des pirogues disparues afin de porter secours aux passagers ouest-africains en détresse. De nombreux canaux bralants ont quitté la Gambie, mais ne sont jamais arrivés à leur destination finale. La mission d'Humanitarian Pilot Initiative a fouillé une zone plus grande que la Suisse à des centaines de mètres d'altitude dans le but d'apporter de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. L'ONG opère depuis 2016 en Méditerranée centrale, mais l'organisation est relativement nouvelle dans l'Atlantique selon africanews.fr.
L'invité.
Dans le sud du territoire de Lubero, Nord Kivu, des villages sont désertés, des écoles et centres de santé restent fermés et de nombreux déplacés internes n'ont presque aucune assistance humanitaire. La région est prise en étau depuis plusieurs mois par trois menaces, les attaques des ADF, la présence de l'FCM-23 et l'activisme de groupes armés Wazalendo. Le président de la société civile de Lubero, notre invité, explique la situation. Il appelle en même temps à une mobilisation nationale et internationale pour protéger la population. Moindo Tafuté sont chrétiens avec Martial Papi Mukeba.
Mwindo Tafuteni, bonjour.
Bonjour.
Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires des Lubero?
La population fait face à plusieurs menaces. D'un côté, la menace de M23 dans la partie sud, avec tout ce que ça a comme problème. Et à l'ouest du territoire, particulièrement en secteur de Bapere et en groupement Manzia et Mwenye, l'activisme des ADF qui ne cesse de tuer ou de massacrer la paisible population. Pour le mois de janvier 2026, nous déplorons plus de 52 personnes tuées uniquement pour ce mois de janvier. Le territoire de Lubero connaît beaucoup plus de déplacés et encore qui ne sont pas assistés ni par les gouvernements, moins par les humanitaires qui ont quand même tenté d'assister en 2024-2025 au centre de Lubero, Moussienene et à Kiambo. Mais tous les déplacés ou les victimes des massacres perpétrés par les ADF n'ont jamais fait objet d'assistance humanitaire. Dans cette zone, les écoles, les institutions sanitaires ne fonctionnent plus à cause de la terreur qui règne au sein de la population.
Vous présentez les territoires des Lubero comme aujourd'hui un territoire qui est pris en étau par des rébellions, l'AFC M23 et les ADF.
Oui, à part les deux menaces, il y a aussi un climat de peur qui existe suite au groupe de Wazalendo qui parfois s'attaquent entre eux pour se prendre à charge. Les groupes de Wazalendo mettent des barrières, passent par des fermes, des grands champs de Kengina pour demander un petit rien pour qu'ils se prennent aussi à charge. Les Wazalendo sont en grande partie à charge de cette population aussi qui n'a pas d'assistance. Donc on dirait une population asphyxiée.
Quel impact l'activisme des ADF, de l'AFC M23 et des Wazalendo a sur les quotidiens des populations du territoire des Lubero?
Le territoire est invivable. Sur le plan économique, on ne peut pas investir ou réfléchir dans une zone où c'est à tout moment des coups de balles ou des attaques. Donc, sur le plan économique, le territoire des Lubero existe moins. Un habitant de Lubero semble ne pas avoir les mêmes droits que les autres. Et suivre les cours dans le secteur de Bapere et dans les deux groupements que je venais de citer ici, Manzia et Mwenye, dans la partie ouest de la chefferie de Bassoa, ça semble ne pas être un droit puisque depuis le début de l'année, il y a des milliers où on n'a jamais été dans des salles de classe. Donc les enfants n'étudient pas comme d'autres enfants de la République démocratique du Congo. C'est une fois dans l'histoire où on écoute que toute une zone de santé, plus de 80% des structures sont fermées. On ne fonctionne plus puisque les infirmiers ou les agents sanitaires craignent aussi qu'ils ne soient attaqués par les terroristes ainsi que leurs malades. Même les églises sont aussi ciblées, comme d'autres l'ont toujours dit, nous sommes déjà dans l'au-delà.
Quel message souhaiteriez-vous adresser au gouvernement congolais et à ses partenaires?
La première chose, c'est de voir le gouvernement prendre ses responsabilités, puisque le gouvernement existe pour la protection des personnes et de leurs biens. Que le gouvernement voie de son mieux pour protéger les personnes du territoire de Lubero en général, et plus particulièrement, je dirais, en secteur de Bapere et dans la partie ouest de Bassoa. Et il faut renforcer le partenariat avec d'autres forces qui sont dans la zone. Les opérations des ADF semblent ne pas attirer l'attention du gouvernement comme même de ses partenaires. Il y a la MONUSCO avec le chapitre 7 et d'autres partenaires au niveau de la communauté internationale en rapport avec le traitement réservé aux terroristes. Puisque les ADF sont classés parmi les terroristes qui font du mal au niveau de la RDC, comme c'est le cas pour les djihadistes et d'autres. Pourquoi ne pas mobiliser les moyens, les forces habilitées à traiter la question des terroristes pour traquer ensemble la question des ADF?
Muindo Tafuteni, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Muindo Tafuteni, président de la société civile de Lubero dans le Nord Kivu. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal préparé par Richard Junior Kamunga et Jude Mister Bilanda, mis en onde par Dieudonné Nyangasa avec Babel Pongo Massimango au micro. Bon début de week-end.